Ésaïe chapitre 63, à partir du verset 16 jusqu'au chapitre 64, le verset 7. Ésaïe 63, verset 16 jusqu'au chapitre 64, verset 7. Au nom de Jésus. Car c'est toi qui es notre Père. Abraham, notre ancêtre, nous ignore. Et Jacob ne nous connaît pas. Mais toi, Seigneur, tu es notre Père. Toi qu'on nomme depuis toujours notre libérateur. Pourquoi, Seigneur, nous as-tu laissé nous égarer loin de ta voix et nous obstiner à rejeter ton autorité? Reviens pour l'amour de nous qui sommes tes serviteurs, le peuple qui t'appartient. Nous, ton peuple saint, n'avons pas eu bien longtemps la propriété du pays. Ton saint temple a été piétiné par nos ennemis. Il y a si longtemps que nous ne sommes plus le peuple sur lequel tu règnes, le peuple qui porte ton nom. Ah, si tu déchirais le ciel! Ah, si tu descendais devant toi, les montagnes seraient ébranlées. Tu serais comme un feu embrasant des brindilles ou mettant l'eau en ébullition. Et tu ferais savoir ainsi à tous tes adversaires quel Dieu tu es. Devant toi, les nations seraient prises de panique. Quand tu accomplirais des prodiges inattendus, oui, tu descendrais et devant toi, les montagnes seraient ébranlées. Jamais on n'a entendu dire, jamais on n'a remarqué, jamais un œil n'a vu qu'un autre Dieu que toi ait agi de la sorte pour ceux qui comptent sur lui. Tu viens à la rencontre de ceux qui font ta volonté, qui la font avec joie, et qui pensent à suivre les chemins que tu as tracés si tu t'es irrité. C'est que nous étions coupables, mais nous serons sauvés en suivant les chemins de toujours. Nous sommes tous des gens impropres à ton service comme un objet impur, et toutes nos actions sont aussi répugnantes qu'un linge taché de sang. Nos torts nous emportent tous comme les feuilles mortes balayées par le vent. Il n'y a plus personne pour s'adresser à toi, pour se ressaisir et s'attacher à toi, car tu refuses de nous voir. Et tu nous as livrés au pouvoir de nos fautes. Et pourtant, Seigneur, c'est toi qui es notre Père. Nous sommes l'argile et tu es le potier. Tu nous as tous façonnés. Amen. En regardant la forme de ce texte, il a l'aspect d'un psaume, bien sûr, parce que c'est une prière. Mais selon les spécialistes, les exégètes, la construction de ce soi-disant psaume semblerait ne pas être au top-top, on va dire qu'il ne suit pas vraiment la structure d'un psaume normal. Donc il y a des défauts, si on veut être direct. Mais c'est justement ce qui fait son charme, ce défaut. Parce que c'est une prière, ce n'est pas un chant ni un poème, c'est une prière. Et la prière vient du cœur. Et je compare cette prière à une pierre précieuse qui n'a pas encore été bien polie. Une pierre précieuse à l'état brut, il y a encore des choses autour qui ne sont pas parfaites, mais il faut quand même l'accepter, c'est une pierre précieuse. Alors si c'est une prière, c'est comme un enfant qui prie, et l'enfant, lui, quand il prie, il ne filtre pas ses mots, n'est-ce pas? Il dit tout ce qu'il a dans le cœur, sans réfléchir, ni à l'esthétique de ses phrases, ni à la compréhension de ses parents qui l'écoutent. Les enfants s'en fichent carrément si les parents comprennent leur prière, ils disent ce qu'ils ont dans leur cœur. Et combien Dieu aime ce genre de prière. Un cœur, une prière sincère, sans les cosmétiques religieuses. Combien de fois, nous aussi, n'avions-nous pas dit, comme dans le texte, pourquoi Dieu, de nos jours, aujourd'hui, n'agit plus comme avant, comme il l'avait fait jadis dans l'Ancien Testament. Oh, parce qu'il y a une nostalgie, on aimerait bien qu'il réagisse comme à l'époque des prophètes, ou tout au moins au temps du Nouveau Testament, avec les grands miracles au temps des apôtres. On aimerait bien quand même de voir ça aujourd'hui. Et on est même tenté à dire, on dirait qu'il a oublié notre époque. On dirait que Dieu est resté dans l'Ancien Testament, Dieu est resté dans le Nouveau Testament, il n'est plus dans notre époque. Comme s'il y a un silence après tout ça. Et c'est un peu la même question que ce que nous nous posons ici, que l'auteur aussi se pose comme question. À partir du verset 7 à 14, même si on ne l'a pas lu, l'auteur qui fait la prière rappelle à Dieu comme s'il le fait un mémorial. « Rappelle-toi, Seigneur, les événements où tu avais manifesté ta force, où tu avais manifesté ta puissance dans le passé. Ô Seigneur, on veut aussi redécouvrir cela. » Et à travers ce rappel qu'il fait, il se plonge dans une sorte de nostalgie, la belle époque, comme on dit. Et avec un sentiment de regret, comme « Comment se fait-il que ce Dieu est tout à coup devenu silencieux avec nous aujourd'hui ?» Et quand il parle ici de « maintenant », c'est l'époque où les rapatriés de la captivité sont toujours dans la détresse, même après qu'ils ont quitté la Babylone, ils sont toujours en détresse. Et les questions que l'auteur, ou je dirais le priant, ici contiennent de l'incompréhension. « Tu es Père », c'est ce qu'il dit au verset 16. « Tu es Père », ce qui signifie « Nous sommes tes enfants » et normalement un père ne doit pas abandonner son enfant, non ? Mais pourquoi tu es silencieux, Père ? Et ça nous fait rappeler un peu le moment où Jésus était tout seul à la croix. Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné ? C'est vraiment un cri de désespoir, de douleur intense qu'il ne pouvait plus contenir en lui-même. Et il a craché le morceau. Il dit, voilà, tu m'as oublié, Père. Et ce n'est pas du tout une prière politiquement correcte. C'est le cri du désespoir. Et cette façon de prier me fait rappeler les psaumes 142, versets 2 et 3. Et là, je vais voir plusieurs versions qui sont intéressantes. Dans la version française courante, il dit « J'appelle à grands cris le Seigneur, j'implore à grands cris le Seigneur, je lui expose ma plainte, je lui fais part de ma détresse. » En entendant cela, c'est encore correct. Politiquement correct. Mais c'est encore léger. Et j'ai plutôt choisi la version de la Tobe qui dit « Je réponds devant lui ma plainte, devant lui j'expose ma détresse. » Et je vais reprendre aussi la version dans ma langue natale, mais la traduction, je vais faire la traduction littérale qui est plus expressive et cela donne ceci. Dans notre traduction à nous, « J'ai creusé au plus profond de mon cœur mes soupirs et je le déverse devant toi. » C'est comme s'il allait chercher au fond de lui tous ses soupirs et qu'il les crache devant Dieu. Ça, c'est la prière. Ce n'est pas juste des mots. C'est vraiment parler avec ses tripes, comme on dit. Quelque chose qui vient au plus profond de nous-mêmes. Et là, nous ne pouvons pas exprimer autre chose que ce que nous ressentons réellement. C'est ce que le priant fait ici. Donc la leçon que moi, j'ai retenue, soyons vrais dans nos relations avec Dieu. Vrai, sincère. Ne mettons pas de masque, ni dire beaucoup de choses qui ne valent rien au final. Parfois, nos prières, quand on les écoute, la plupart ne sont que des choses vides de sens. Jésus l'avait aussi dit dans l'Évangile, dans Matthieu chapitre 6, versets 6 à 7. « Mais toi, lorsque tu veux prier, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est là, dans cet endroit secret, et ton Père qui voit ce que tu fais, en secret te récompensera. Et quand vous priez, ne répétez pas sans fin des mêmes choses, comme les païens. » Ce n'est pas comme les chrétiens, les religieux. « Comme les païens. » Ils s'imaginent que Dieu les exaucera s'ils parlent beaucoup. Voilà. On veut construire une idée qui nous rassurerait comme « Si je passe des heures à prier, alors je suis sûr que Dieu m'écoute. » Faire de longues prières pour être sûr que Dieu m'a entendu. Mais c'est de l'utopie religieuse que l'homme a construit pour se mettre dans une soi-disant sécurité piétiste. Mais ce qui est important, c'est que dans le secret, peu importe la durée, mais que tu craches le morceau, tu dis ce que tu as, ce que tu ne supportes pas, ou tu n'es pas d'accord avec Dieu. Je suis dans un forum de discussion dans Top Chrétien, vous connaissez Top Chrétien, et une femme a posté un message sur Top Chrétien qui a dit, voilà, je suis en froid avec Dieu. Et quand j'ai vu les commentaires des gens en bas, qui l'a tabassé comme si c'était une païenne, et on l'a amené sur la place publique, et tout le monde, femme païenne, tu ne crois pas en Dieu, pourtant c'est un site chrétien. Oh! Aucune pitié. Et moi, j'ai osé dire, laissez cette femme exprimer ce qu'elle a contre son Dieu. Elle a le droit parce que c'est son père. Et un enfant a le droit de ne pas être d'accord avec son père, n'est-ce pas? Puisque c'est son père. Mais laissez Dieu s'expliquer avec son enfant. Parfois, ça fait du bien de faire ce genre de prière. Alors, l'appel que lance le priant dans ce texte, va jusqu'à supplier Dieu. Dieu, je te supplie, déchire le ciel. Vous voyez la façon dont il parle. Déchire le ciel et descends sur ta montagne. Cette demande du priant vient juste après qu'il a mentionné que ton peuple n'a plus de terre, tu sais. Est-ce que tu ne vois pas? On n'a plus de terre. Nos ennemis ont foulé le sanctuaire. On a déshonoré ton temple, mais qu'est-ce que tu attends en plus pour descendre? Comment se fait-il que tu ne réagisses pas à ça? Moi, je ne supporte pas ça. Et toi, tu ne réagis pas. La demande qu'il fait ici, c'est une sorte de projection anthropomorphisme, c'est-à-dire que le fait de déchirer le ciel est calqué sur une pratique juive. Face à un blasphème, quand il y a un blasphème ou un déshonneur qu'on fait contre Dieu, le grand prêtre se lève de son trône, de son siège, et il déchire son vêtement de prêtre pour montrer son indignation. C'est une façon de s'exprimer. Et c'est un peu l'image, il déchire le ciel. Montre que tu es indigné, Seigneur. Il crie à Dieu qu'on est en train de toucher à ce qui est sacré. Et c'est un acte inacceptable. Pourtant, Dieu semble se taire et semble ne pas réagir. Mais qu'attend-il donc encore de plus grave que cela? C'est la question du priant. Comme il disait, je ne comprends plus rien. Mais tu es le kadosh, non? Tu es le saint. Comment ça se fait que tu laisses faire? Oui, nous entrons dans la période de l'Avent, un temps d'attente pour simplifier. Mais qu'attendons-nous finalement, nous aussi? Qu'est-ce que nous espérions de Dieu? Qu'est-ce que toi tu attends de lui comme ce priant? Nous n'allons pas nous mentir à nous-mêmes. Mais tout le monde, je sais, moi y compris, tout le monde a une attente particulière qui pèse dans son cœur. Il n'ose pas le dire parce que ce n'est pas correct. Mais tu as quelque chose dans ton cœur, tu attends de Dieu. Et cette prière que nous avons aujourd'hui sous nos yeux, pour moi, est un guide qui nous donne une assurance que nous pouvons venir à Dieu tel que nous sommes. Et surtout de venir à lui, oser parler, oser tout répondre devant lui, ce que nous ne supportons pas. Ça, c'est un privilège. Tu ne peux pas faire ça chez les autres dieux. Tu ne peux pas exprimer ton désaccord avec les autres dieux. Ton Dieu, lui, il accepte que tu sois en désaccord avec lui. Ça, c'est un privilège. Non seulement cela ferait du bien, psychologiquement parlant, mais c'est une attitude aussi d'un enfant envers son père. Et dans le texte, le priant a mentionné le terme de père pour dire qu'il se considère quand même avoir une relation étroite avec son Seigneur pour pouvoir dire ces mots. S'il ose dire ces mots, ce n'est pas juste qu'il est en colère, mais il est sûr que son père l'écoute. L'image qui est donnée dans ces moments de l'avant, c'est un peu comme le soldat qui monte la garde. Dans le livre d'Ézéchiel, il utilise par exemple le mot de sentinelle. Avoir une personne dans la famille comme intercesseur est très précieux, car la vie de toute la famille en dépend. D'ailleurs, j'ai relevé une expression très belle chez Ézéchiel qui me semble appropriée à ce que nous avons en parallèle avec notre texte. Voici une phrase dans Ézéchiel chapitre 62, versets 6 à 7. « Sur tes murailles, Jérusalem, j'ai placé des veilleurs. Ils ne devront jamais se taire ni le jour ni la nuit. Vous qui rappelez au Seigneur le souvenir de Jérusalem, ne faites aucune pause. » Ne le laissez pas en repos jusqu'à ce qu'il l'ait rétabli, jusqu'à ce qu'il ait fait de telle la gloire de toute la terre. Amen. Peut-être que tu te dis, moi, je ne sais pas prêcher. Peut-être. Il me faut une formation, c'est vrai. Mais il y a aussi un grand ministère que nous avons négligé parfois. Et ce ministère, c'est le ministère d'intercesseur. Celui qui rappelle à Dieu, c'est ça qui est bien, le priant, c'est celui qui rappelle à Dieu ses promesses. C'est une belle image. Qui rappelle à Dieu ses frères et ses sœurs et se tenir debout pour prier pour son pays, pour sa ville, comme le dit notre texte aujourd'hui. Et là, j'extrapole un peu, nous avons une opportunité, je ne dis pas une chance, mais une opportunité d'avoir au moins dans notre paroisse, une fois par mois, une soirée de prière. Profitez-en de cet instant. C'est un instant béni. Car c'est plus qu'un moment de prière, c'est aussi un moment où Dieu nous apprend à porter la cause des autres. C'est un moment d'apprentissage, de ne pas être égoïste. Parce que quand on prie tout seul chez soi, je suis sûr, 90% des sujets de prière, c'est pour nous. Ah, mon fils, mon mari, ma femme, mon travail, ma santé, moi, 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 moi. Mais quand on fait des moments de prière, tu es, je ne veux pas dire obligé, mais on t'incite à prier pour les autres. C'est ça être un sentinelle. Et dans notre nature humaine, nous sommes tout le temps centrés sur nous-mêmes. Mais dans ces soirées de prière, nous apprenons à avoir de l'empathie pour l'autre, de supplier le Père pour les autres. Ça, ce n'est pas évident. Comme les disciples jadis, venez et n'ayez pas peur. Dis à Jésus, Jésus, apprends-moi à prier. Amen.